Alors, chaque année, au milieu du carême, l'Église donne la transfiguration avec, avec Pierre, Jacques et Jean. Le carême, c'est la révélation du sens de la prière, la direction que prend la prière. C'est pas parce que Jésus est glorieux, que Dieu est dans la gloire, que du coup, c'est pas parce que la prière est à son sommet, la relation, Dieu est une relation, Dieu est en relation avec Dieu, une relation, le Saint-Esprit, le terme d'une relation entre l'unité du Père et du Fils et dans la nature agréée de Dieu. Une relation, le Père est une relation d'amour vis-à-vis du Verbe. Le Verbe est une relation de conception. Dans son terme terminant, un créé éternel. Tout est relation. Oui. C'est pas parce que les relations sont glorieuses qu'elles ne doivent plus prier. C'est pas parce qu'elles sont éternelles et accomplies qu'elles ne doivent plus. C'est pas parce qu'il y a la transfiguration que Jésus ne continue pas sa prière. C'est dans sa prière, justement, que toute la gloire de Dieu descend, parle avec les hommes, et ne regarde qu'une seule chose, c'est la Sainte Face. Elle ne regarde qu'une seule chose, c'est la croix. Ce n'est pas parce que tu es en pleine gloire, en totale perfection, que tu es Dieu lui-même, que du coup, tu n'es pas tout dirigé vers la croix. Avec Moïse et Élie, ben Jésus, il parle de quoi? Il parle de ce qui doit se passer à Jérusalem. La prière est une orientation vers la croix. Une contemplation, une vision. Jésus fixe son regard sur son heure à Jérusalem. Moïse aussi, il apparaît, Élie. Ils ont été emportés sur char de feu, dans un lieu de lumière et d'immaculation. C'est pas parce qu'ils sont dans la gloire avec Jésus qu'ils n'ont pas les yeux fixés sur la croix. Et le carême, c'est pour nous montrer qu'il faut toujours descendre plus profondément. C'est pas parce que Marie a été obombrée dans la supervenue du Saint-Esprit qu'elle est devenue la mère du Verbe incarné qu'elle n'a pas les yeux fixés sur la croix. Il faut toujours qu'elle aille de gloire. Plus la gloire de Dieu est grande, plus elle doit s'enfoncer dans la croix. C'est la gloire. Notre plus grande gloire, c'est la croix. De donner la vie divine à ceux qui sont sur la croix, c'est notre plus grande gloire. Et une fois que la chose est... Une fois que notre regard est fixé sur la Sainte Face, c'est la face tout à fait divine de Dieu, parce qu'il se donne jusqu'au fond, non seulement de l'éternité, mais aussi du fond du ciel, mais aussi jusqu'au fond de la terre. Dans les deux, alors, la Sainte Face de Dieu apparaît. On a un regard fixé sur la face de Dieu. Alors, à ce moment-là, la gloire de Dieu recommence une nouvelle obombration. Marie a engendré la gloire de Dieu dans la chair humaine, dans le Christ, qui est fixé sur son union hypostatique déchirée. Mais une fois que tout cela est établi, il y a une nouvelle obombration. On le voit bien, il y a une nouvelle gloire qui s'empare de l'immaculation. C'est comme éblouissant comme la neige. La Sainte Face est tout à fait... trouve une nouvelle gloire. Eh bien, c'est pas suffisant. Il y a une espèce de une nouvelle tardement, une nouvelle sommeil mystérieux, un autre mariage spirituel, une autre fécondité. Et pour ça, il y a une nouvelle obombration, une nouvelle gloire qui s'empare d'eux. Et lorsque les gens, Pierre, Jacques, Jean, et puis Moïse, Élie, avec Jésus, sont introduits, on voit bien, lorsqu'ils pénètrent cette nouvelle gloire, lorsqu'ils pénétrèrent dans cette nouvelle gloire, ils furent terrassés par le tremblement. Fascinandum et tremendum. Lorsqu'ils ont pénétré, on sent très bien qu'il y a une inspiration qui les introduit à l'intérieur, d'une nouvelle virginité, d'une nouvelle gloire qui permet d'entendre la présence sans voir la face et pourtant en envoyant la lumière du Père, de l'Époux. C'est mon bien-aimé Agapéton. Agapéton, c'est mon... Écoutez-le. Une nouvelle embrassure parce que il y a une nouvelle maternité divine de Marie. Il y a une nouvelle virginité corédentrice une fois qu'on est, j'allais dire, englouti dans la gloire de la croix. Alors il y a une nouvelle virginité, une nouvelle embrassure, une nouvelle supervenue du Saint-Esprit, une nouvelle prière, une nouvelle alliance, une nouvelle Jérusalem glorieuse, une nouvelle rédemption du monde, une nouvelle maternité qu'elle engendre, elle devient. C'est une chose d'être la mère de Dieu, c'est une autre chose. Dans une nouvelle virginité, d'engendrer une nouvelle maternité, elle est co-rédemptrice. Elle est médiatrice. Elle est la mère de la mort et de la résurrection. Mais attention, elle l'engendre du fond du ciel, de l'ombre au bassin à créer, jusqu'au fond de la terre. C'est ça, la transverbération. Elle est dans l'union hypostatique de Jésus, la mère de la transverbération. C'est pour ça que c'est énigmatique, hein. C'est vrai, les textes qu'on a aujourd'hui, ils sont magnifiques. La Torah, on a Abraham qui n'a pas encore le « hé » dans son nom, c'est Abraham, c'est pas Abraham, c'est Abraham. Alors ça reste du coup énigmatique ce qui se passe, parce que c'est dans son songe, il est dans le sommeil. Quand Jésus le sort dehors, il est dans le sommeil, comme Saint Joseph. Abraham, il dit, regarde les étoiles. Bon, c'est ta fécondité. Ta fécondité, c'est le nombre des étoiles. Bon, bah, Abraham a cru. Et du coup, Jésus, voyant qu'il croyait, bah, il a dit ça. Il a vu que lui était juste. Il était la manifestation première de la justice, incarnée de Dieu. Et puis, il lui montre ensuite, vous voyez la différence? Il lui montre ensuite, non pas sa descendance, sa bénédiction, sa paternité divine. Sur les peuples, il lui montre la terre promise. Il lui montre la terre promise. Il dit, elle t'appartient. Et là, Abraham, il dit, mais comment en serais-je sûr que toute cette terre m'appartient? Et alors, c'est là qu'il y a un autel qui est dressé. Est-ce qu'il est toujours dans son songe? Je crois que oui. Et puis, Dieu lui dit, tu prends une génisse, une femelle, une chèvre, une femelle, un bélier. Et puis, une tourterelle. et une colombe. Et puis, tu les coupes en deux. Ça, c'est encore. Tu coupes ces animaux-là en deux. Et tu mets d'un côté. Et de l'autre côté, ces deux morceaux séparés de la génisse femelle, de la chèvre ou de la brebis femelle, et du bélier. Mais les oiseaux, non. Les oiseaux, tu ne les coupes pas en deux. Et alors, à ce moment-là, vous avez entendu, comme moi, la révélation de Dieu. Abraham, il dit, voilà, une tarte des mars tomba sur lui comme un sommeil extrêmement mystérieux et accablant. Donc il passe du songe à un sommeil de tarte des mars, mariage spirituel. Et une fécondité apparaît, ce qui prouve qu'il n'a pas mis Dieu à l'épreuve en demandant comment avais-je le savoir, mais ce qui prouve qu'il approfondissait sa foi en croyant toujours plus profondément, mais en demandant de voir jusqu'où il devait aller. Demandait quelle était la volonté de Dieu. Et du coup, il y a eu cette tarte des mars, intéressant, pour une théologie sur le carême de Saint-Joseph, enfin, de ceux qui sont emportés par la foi dans la justice d'amour, dans l'ajustement à l'amour. Alors il y a cette même tarte des mars que celle qu'on voit dans la transfiguration. Elle est engendrante d'ailleurs d'une opération purement divine. Et c'est là que nous avons lu ensemble qu'il y a une espèce d'embrasement glorieux qui passe au milieu entre les deux, entre les moitiés d'animaux, et une torche embrasée qui passe aussi entre les deux moitiés des animaux et qui consume. Ben, les pères de l'Église, les apôtres, ont compris quand Pierre, Jacques et Jean se sont retrouvés dans la Pentecôte, ils ont vu quel était cet embrasement qui prend C'est vrai, quand ce passage extraordinaire s'est fait, la transverbération a séparé en deux le ciel, du ciel, du fond du ciel jusqu'au fond de la terre, a séparé en deux le temps, le monde animal, le monde temporel, est séparé complètement en Dieu jusque dans les profondeurs de la créature de Dieu, les profondeurs du corps spirituel émanant, et le fond du ciel, du monde incréé de Dieu, transverbération, permet le passage de la mer rouge, permet le passage du Jourdain. Et pourquoi il y a Moïse? Ben, il y a Moïse parce que Moïse est le témoin et il porte aussi toute la signification, toute la présence en fait du buisson ardent. Le buisson ardent, eh ben, c'est la gloire de Dieu qui ne s'éteint pas. C'est l'immaculée gloire de Dieu qui dans le monde visible ne se consume jamais. Les pères de l'Église ont toujours vu dans le buisson ardent de Moïse l'Immaculée Conception, enfin la Vierge, c'est l'assomption de son assomption dans sa conception, de sa conception assumée, qu'elle nous arrive, qu'elle nous est donnée sur la terre, et cette gloire, enfin cette lumière, cette virginité lumineuse vivante, est embrassée de l'Immaculée Conception, elle est plénière, elle est consciente. Elle est lucide, elle est libre, et elle ne s'éteint pas. Eh bien, c'est sa foi qui doit passer au milieu de la transverbération. Elle est Immaculée Conception pour être faire que les cieux et la terre se déchirent en deux et permettre à Dieu d'opérer ce mystère de la croix. Et puis la torche embrasée, tout le monde a compris. On a, c'est bien, c'est à force quand même, on connaît les pères d'église et l'interprétation de la doctrine apostolique. C'est la croix glorieuse, c'est ce qui se passe. Parce que la transmission, c'est pour ça, de la lumière de gloire s'opère. Dans les fonds de la croix glorieuse, la contemplation de Marie, la contemplation de Jean, la contemplation de Jeannick, la contemplation de l'Église, de la Sainte Face, c'est va jusqu'à Joseph, va jusqu'à la lumière de gloire, elle est embrasée, elle passe, les deux sont ensemble, l'Immaculée Conception. Et cette lumière de gloire communiquée à Joseph pour une réassomption, une nouvelle gloire, une nouvelle obombration. J'allais dire au moment de la croix glorieuse et d'entrer dans la vision béatifique, c'est comme si le carême nous indiquait tout n'est pas fini, tout recommence. Chose d'être dans la gloire, c'est une autre chose de passer. C'est une chose de ne pas. C'est une chose d'être avec le bon Dieu, d'être dans une union totale avec Dieu. Parce que ce moment-là, tout reprend dans le sacrement, dans l'Église, dans la Jérusalem nouvelle, dans la Jérusalem glorieuse. Pourquoi est-ce que l'Église nous donne le Mais c'est parce que Dieu attend pas que nous soyons, que nous restions imparfaits dans le péché, et puis voilà, on demande pardon, et puis finalement Dieu nous pardonne, voilà, point barre, voilà la nouvelle alliance. Non. T'as une tendance compulsive, vas-y, plonge-toi dans la fange, vas-y. Demande pardon, et puis c'est tout, dans l'amour fraternel. Une fois que tu es glorieux, immaculé et parfait, tu as ton visage fixé sur la croix, c'est-à-dire sur la gloire éternelle du Père, mais qui reprend toujours une fécondité de lumière. C'est à partir de la perfection, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait, que l'enfant de Dieu, la Marie, Jésus, Jean, les enfants de Dieu de l'Église s'enfoncent toujours plus avant dans le fond de la croix glorieuse, dans le fond de la transverbération, dans le fond de la création de toutes choses. Et c'est pour ça qu'il y a une différence énorme entre l'état du corps spirituel de la transfiguration et l'état du corps spirituel de la résurrection. Voilà, tout est terminé. Il y a une grâce à la Jérusalem nouvelle. Je connais et je peux être installé durablement dans la modalité de la gloire qui est une véritable gloire divine du corps dans la transfiguration, avec une agilité, une luminosité éblouissante, une immaculation réconfortante, communicante, féconde, une agilité extraordinaire, aspirante. Et si bon Dieu m'a introduit dans la gloire de la transfiguration, ça ne veut pas dire que c'est... Ça y est, je suis arrivé. Non. Si la transfiguration, c'est la preuve, au contraire, que d'un seul coup, Jésus se retrouve tout seul et il va vers Jérusalem. Et il demande qu'on se taise sur cette chose-là. Parce que tant qu'il n'y a pas la Pentecôte, on ne peut pas voir la différence entre la transfiguration de la chair et la résurrection de la chair. C'est peut-être là-dessus que va jouer l'Antichrist. Parce que la résurrection de la chair, c'est tout à fait autre chose. Alors il y a cet appel quoi, de l'église de l'Esprit Saint à la Jérusalem dernière, à la maternité divine de Marie, qui est eucharistique, silencieuse. Un sommeil d'attarder ma divin engendré, au fond, l'au-delà de la résurrection, c'est-à-dire le jugement dernier. Et l'Église nous rappelle ça. C'est pour ça qu'elle met toujours la transfiguration au milieu du carême. C'est cette transfiguration, de cette jubilation, de ce bonheur, de cette paix, de cette lumière, de cette invincibilité, que je descends encore plus profondément dans le mystère de la Sainte Famille, rédemptrice, qui trouvera sa fécondité en vérité ultime que dans le mystère de la Croix glorieuse, avec toute la Jérusalem, avec toute la Jérusalem de la terre, et sous l'ombre de la Jérusalem céleste, portée par la transverbération du sponsal du Verbe, de la gloire du Père. C'est le monde nouveau. Le monde nouveau qui est devant nous. Alors, quand la transfiguration est terminée, on s'engloutit dans cette admirable, admirable mission du Saint-Esprit et de l'épouser à l'intérieur de la Jérusalem dernière, de la fécondité co-rédemptrice et médiatrice de gloire. Alors, je ne résiste pas à prendre 10 minutes quand même. À prendre 10 minutes de carême dans cette direction. Il faut fixer notre regard sur cet emportement. Ils ont été emportés. Les trois qui étaient à Gethsémani, ils ont été emportés. Pourtant, à partir d'un sommeil presque invincible, ils ont été emportés à l'intérieur de la gloire. De cet appel à Gethsémani, à partir de la transfiguration. Le pape Jean-Paul II a fait de ce mystère un mystère du rosaire. C'est un mystère de co-rédemption mariale. Une nouvelle virginité autre que celle de l'Immaculée Conception, toute différente, et toute partagée, communiquée et donnée, est engendrée par Dieu miraculeusement. Pour une nouvelle fécondité maternelle, vis-à-vis du mystère de la croix, la réalité quoi, en fait, de la croix. La transfiguration, c'est tout simplement la manifestation, non pas de la gloire, mais que Jésus vit et s'abreuve d'une nouvelle virginité qu'il crée en Marie pour qu'elle soit avec lui. Source de la croix, source de la transverbération, qui unit le ciel et la terre dans cet écartement. C'est le quatrième mystère lumineux que nous avions entendu sous forme de prière. On doit contempler les mystères du rosaire en comprenant que c'est ce que vit Marie. Et Jésus manifeste aux apôtres, mais ils ne l'ont peut-être pas compris, je ne sais pas. Jean, oui, sûrement, il a dû percevoir. C'est pour ça qu'il a suivi Marie au jour de l'Eucharistie. Parce qu'il a perçu, là, si ce jour-là. Tu as vu, tu as touché, tu as admiré. Pénètre toujours encore et encore en elle. Mais c'est pour nous que tu le fais, une virginité nouvelle, toute différente de celle qui fut saisie lorsque tu as voulu t'incarner en elle. Enfant du monde nouveau, dit le Père, Jésus vous emporte avec lui dans la virginité nouvelle de Marie. Une autre virginité, une virginité nouvelle, à la source du mystère, d'une métamorphose, transformation totale, substantielle, nouvelle. Tu nous as tellement, pour ainsi dire, incorporés à elle. Déployant tes enfants ouverts, les fruits semés dans l'advenue de la Jérusalem nouvelle, pour que nous puissions te dire, nous voici, offerts comme elle, emportés comme elle, avec elle, aux portes de cette virginité suprême. C'est notre confession du carême, oui, c'est vrai. La confession de Marie en notre nature humaine. Nous incorporons à elle. Et voici, nous en vivons. C'est tout nous-mêmes. Et elle s'est répandue en notre oui originel retrouvé. Ineffable, ange Gabriel, tu nous apparais une fois encore. C'est à nous à travers elle et nous devons y croire, être reconnus comme justes. Cette proclamation du royaume de Dieu, signe du pardon, ce pardon jusqu'à la fin. Et je le vois, universel, perpétuel, glorieux, innocence totalement nouvelle. Enfant du monde nouveau, écoute-le, écoute-le, écoute cette naissance qui monte vers la source des éclosions sereines d'en haut. Comprends, vois, pénètre, laisse-toi prendre et crois seulement. La paternité vivante éternelle de Dieu te prendra sous son manteau. Elle t'y aspirera et tu seras pénétré. N'aie pas peur du Saint-Esprit jaillissant pour toi le fiat, le oui, le chemin, le me voici pour ta Jérusalem virginale et toute divine. Il fera la palpitation qui sera tout toi dans la Jérusalem nouvelle. À la rencontre brûlante de la Jérusalem bénie. Une virginité nouvelle, elle apparaît là en toi, elle apparaît en nous. C'est notre monde nouveau, c'est la tienne, c'est ta virginité nouvelle, Marie, qui nous envahit. Cette lumière ne restera pas cachée dans ma vie. Je ne l'oublierai pas, je ne la camouflerai pas sous mon boisseau. Si Jésus a voulu la manifester, enfant de la terre, toute la vérité sur la source de la grâce d'une virginité éternelle, c'est qu'il veut donner à ma virginité retrouvée en vous, en notre Père, et au Saint-Esprit, une signification nouvelle, une métamorphose conçue dans l'offrande parfumée du royaume de Dieu, accomplie de votre foi ultime. Elle fait surabonder la lumière de son évangile, de sa bonne nouvelle, dans les ténèbres d'une foi toute pure. Splendissante, immaculée en un acte de foi tellement fort, tellement simple, fini, tellement extraordinaire, tellement porté par la surprise fulgurante et si douce du Saint-Esprit, tellement emporté par la toute-puissance de Dieu le Père, qu'apparaît votre transfiguration dans votre vie d'abord, dans votre chair endormie ensuite. Dans votre éblouissement, enfin, en ce que vous êtes la véritable anaphore au sommet des collines. Et oui, parce que je suis saisi de Pierre, Jacques et Jean, les trois. Et ils emportent au sommet de la montagne avec lui, et laissent me briller. Ils les emportent, et le mot grec c'est anaphore. Les porteurs du parfum. Les porteurs du parfum. de ce sens d'une hypostatique désirée. Mets-toi en Jésus. Une fois en lui, mets-toi à genoux. Lève les bras et remercie le Père. Et quand tu te réveilleras, voilà ton désir est là, que tout déborde dans cette lumière. Visage de Jésus tout nimbé de lumière, d'une lumière d'en haut, lumière inconcevable, toute resplendissante, nuit glorieuse, rayonnante de mille soleils dans tous ses membres. Dans tous ces aimants et soleils qui brûlaient d'une blancheur plus immaculée que la neige embrasée de lumière, ah oui, reste là, ô Seigneur, sous notre tente. Que la plénitude de votre responsabilité parfaite va surabonder jusqu'à nous par l'expiration sponsale de ce mystère. Pierre, Jacques et Jean qui demandent ça. Pierre, ben on va se mettre sous la houppa, sous la houppa, la tente, on le met dehors. C'est là qu'il y a les noces, le mariage se fait sous la houppa, l'épouse se marie comme ça, sous la houppa, dehors. Ah ben, on va se mettre sous la tente de Jésus. On va rester là. Ça montre bien la signification sponsale, la soukote, la véritable soukote de la transfiguration. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. La plénitude de votre sponsalité parfaite, elle va surabonder jusqu'à nous et nous y faire demeurer. Laisse-nous nous installer ici sous la tente de l'expiration sponsale de ce mystère, qu'on puisse mourir là. Sans passer par l'éternelle volonté de Dieu, que toute la gloire de Dieu est fixée sur la croix, sur la rédemption toujours, nouvelle plus profonde. Mais Jésus, toi tu as voulu nous le donner à voir miraculeusement, nous ouvrons notre foi, qu'apparaisse ce resplendissement, pour le monde nouveau, pour la croix dans la gloire de Dieu, pour la Jérusalem qui se fait toute belle. J'ai accepté et j'ai dit, comment vais-je faire maintenant pour me cacher? Alors Jésus m'a pris et emporté pour me cacher avec ceux qui pénètrent le secret, le sceau de cette transfiguration de l'époux dans l'épousée. Oh mon Père, ombre, oh bon passion et présence cachée, oh gloire qui nous fait disparaître, oh Esprit Saint, manteau de sagesse éclatante et nuée d'onction lumineuse, oh voix solitaire du Verbe criant dans le désert du paradis virginal, le monde nouveau acquiesce la prédestination de tous les élus et inscrit en mon nom le sang du Père de Jésus dans le livre de la vie, son corps spirituel dans le royaume accompli et sa vie cachée dans les sources du roi. Je vais pouvoir descendre ainsi jusqu'à la croix. Jésus nous donne un nouveau rythme d'amour filial parfait, naturel, surnaturellement, recréé dans la puissance silencieuse du cri de l'enfant, dans l'Esprit Saint et de l'épouse de l'Apocalypse qui entend la voix du Père qui dit viens. L'Esprit Saint est poussé, viens. Entends ce cri en elle. Oui, entends ce cri en elle, écoutez-le. Ce Verbe en nous et en elle. Viens fondre en harmonie, Marie, Joseph, et tes enfants offerts dans le secret de ce rythme où l'époux du ciel fait rayonner le Père de la clarté sensible du Verbe de la rédemption éternelle. Le royaume de Dieu du troisième mystère lumineux, c'est celui de ma mère. Voilà ce qu'il m'a dit au cœur de la nuée, immaculée, rayonnante et aspirante. C'est celui de mon père. Voilà pourquoi j'entends bien là mon père souffle en cette brise souveraine. Celui-ci est mon aimé absolu, mon aimé éternel. C'est Dieu comme moi, c'est mon fils, c'est Dieu vivant. Que faut-il que nous écoutions en ce jour d'aujourd'hui? Que fallait-il écouter, ô notre Père? Que Jésus transfiguré, c'est Jésus brisé, parce que ta mort exprime ta brisure. Et la seule clarté en ma mère Marie, Jésus disparu en elle et en nous, c'est le Noël glorieux du mystère de compassion. C'est l'Immaculée Conception dans la naissance de la vie baignée de larmes. C'est la nouvelle virginité de Marie. Compassion en Jésus broyé, blotti comme un enfant dans les bras de sa mère. D'abord, en hébreu, ça veut dire brisure et déchirure immense. Et notre mère, c'est votre croix, où la seule lumière admise est la clarté virginale, transfigurée à l'extrême, profonde et cachée de Marie, toute offerte à l'amour jaillissant de l'unité du Père et du Verbe vivant en Dieu. La communication de la lumière par nos pères en Abraham n'éclairait jamais la lampe de la Ménorah. Même avec Moïse, la synagogue devait attendre que la Vierge d'Israël l'épousait l'allumât, et la demeure de Dieu ne le verrait éclairée qu'en la présence explicite du Messie. Voilà ce qu'ils ont vu, Jean, Pierre et Élie. Voilà si le monde nouveau et l'heure nouvelle où Jésus indique à Marie l'heure venue de l'éclairer. Cette heure nouvelle, elle est venue. Jésus désire qu'elle soit posée visiblement sur la table des noces, pour qu'elle se voie, qu'elle soit saisie et emporte dans sa mission elle-même en illuminant toute la maison de la Jérusalem glorieuse où nous allons. Toute notre demeure intérieure peut désormais la voir, la suivre et y disparaître. Les enfants de la grâce ont pu longtemps se cacher sous le manteau de la sainteté dont Jésus les avait enveloppés, mais voici qu'ils se trouvent là seuls et ils n'en parlèrent plus. La proclamation de la croix est inaugurée dans une méta-clarté. La croix, avec la foi venue d'en haut, a fait couler son onction savoureuse. La sagesse va dresser une table qui invite les hommes au festin. L'appel à l'Eucharistie est infiniment plus fort que l'appel du mont Tabor. La mort va être assimilée par l'amour dans la lumière d'une clarté éternelle. Laissons-nous dévorer par cette lumière glorieuse qui fera de la croix les délices de l'éternité, et la mort en nous sera engloutie et elle y aura totalement disparu, transformée, métamorphosée en gloire incréée et éternelle. Voilà l'enseignement du Père et du Fils en cet emportement où ils ont été emportés, nous avec eux en lui, pour partir sur les pas de Jésus, et j'entends Jésus le dire, n'en parlez à personne. Ne jetez pas cela aux animaux impurs. C'est vrai, les animaux d'Abraham sont tous des animaux purs. C'est vrai. La brebis, la génisse, la tourterelle et la colombe. La miséricorde de Dieu n'est pas ce qu'on croit. Elle nous pardonne, mais elle nous transforme. Et cette transformation nous amène à une transformation où c'est Dieu lui-même qui se transforme en mari dans la chair de la Jérusalem glorieuse de la sa responsabilité, qui elle est la glorieuse et éternelle. Derrière cette force invincible et transfigurante, cachée dans la Pâque de la croix, je reçois au-dedans de moi la grande confirmation de ce mystère qui m'épanouit moi-même en toi. Le paraclet émane en sa virginale, fécondité, toutes mes métamorphoses qui me font exister pour le Saint-Esprit. Et la vie chrétienne, c'est la vie de la croix. C'est la participation à la croix. C'est la transformation dans la croix. C'est l'union transformante par la prière nouvelle. Amour plus fort que la mort. Qui me font exister en toutes mes transformations pour le Saint-Esprit. Je dévore le fruit du mystère. Fruit éternel de ceux qui vont jusqu'au bout. Des surabondances parfumées qu'ils peuvent tirer de l'onction du signe gardé secret de la force amoureuse de Dieu. La confirmation épuise toutes ses forces opérant dans les membres du monde nouveau vivant par le feu de l'amour du cœur de Jésus dans l'Esprit Saint. Laisse en moi transparaître la puissance de lumière et d'amour d'une Jérusalem glorieuse entière, de toute sa saveur, de tout son parfum, de toute sa paix, de toute son allégresse, de toute sa profondeur ardente et pure de cette terre. Je rends grâce pour la croix. Je rends grâce pour ce passage de la transfiguration à l'allégresse de la Jérusalem dernière. Dans notre unité indissoluble avec l'agneau, une force lumineuse d'indivisibilité divine vient écarter toutes les forces contraires. Et ce mal des forces contraires disparaissent de la terre. Ces forces contraires avaient voulu nous séparer des profondeurs du ciel et de la terre. Non, grand saint, grand roi, précurseur des cinq secrets scellés, témoigne, nous t'en supplions, de cette grâce. L'eau est changée en vin, le monde ancien, le monde nouveau, notre cœur ouvert s'éblouit, enivré des délices de la paternité du Père. Nous sommes envoyés en mission divine. De l'amour incréé du Père à responsabilité embaumée en l'au-delà des séquelles d'une nature bafouée. Que notre terre s'ouvre, absorbant toutes les tentations du mauvais de la terre, et ressuscitant d'abord, proclamant la bonne nouvelle de la Jérusalem spirituelle tout entière, mystère du Christ répandu dans tout l'univers. Que le mauvais disparaisse de notre terre, et que l'indissolubilité du peuple de Dieu unis par la gloire de celui qui s'immole et disparaît avec nous en toi, face à un seul troupeau, un seul pasteur, occupant la place vacante. Et qu'enfin, au quatrième mystère lumineux de ce carême, vécu dans le Père, en elle, la Jérusalem glorieuse toute flambante apparaisse, sans voile devant nos yeux intérieurs. Miséricorde transfigurante des enfants du monde nouveau, avènement du règne du Sacré-Cœur. Miséricorde divine véritable, mise en place du corps spirituel dans le corps transfiguré des enfants de Dieu sur la terre. Disparition devant la face de Dieu, de notre déchéance. Et de notre enfance retrouvée dans la lumière, disparaissant en le Fils de l'homme qui est Dieu lui-même. Voilà, le carême, c'est une vie de contemplation de la vérité révélée et donnée pour qu'on puisse s'écouler merveilleusement et délicieusement dans le fond réel, pas métaphorique, réel de la Pâque. Eh bien, il faut qu'on soit fidèle à ça. Amen.